Un, deux. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour cet atelier sur la comptabilité CARE. Donc du coup, je m'appelle Mathieu Astic, je travaille pour le cabinet Hendrix, donc je suis du conseil en RSE, notamment en expertise sur la comptabilité écologique, et j'aurai le plaisir d'être accompagné par Stéphane Le Dentu, donc fondateur et CEO du groupe SLB. Donc avant d'entrer dans le détail, on va voir les formalités. Donc du coup, qui est Hendrix déjà dans le premier temps? On est un cabinet d'expertise comptable et conseil aux dirigeants à 360 degrés. Donc on accompagne sur toutes les thématiques extra-financières et financières, conseil stratégique, de croissance, de RH, etc. On est implanté partout en France, notamment sur la partie Est. Et du coup, également, on conseille sur la partie stratégie RSE. Donc on a une équipe RSE qui est vraiment en conseil aux dirigeants. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot d'introduction sur ce qu'est CARE. La comptabilité CARE a pour objectif de vraiment étendre le principe de préservation des capitaux financiers en comptabilité classique, à savoir que quand on a des investisseurs actionnaires qui apportent de l'argent dans l'entreprise, ils s'attendent à tout moment pouvoir être remboursés. L'idée est de dire que les entreprises, elles ne fonctionnent pas qu'avec de l'argent, elles ont besoin de matière, de ressources, d'êtres humains également pour travailler. Et donc, comment on peut étendre le principe de préservation? Et bien pour cela, on fait en sorte qu'on rende compte que l'entreprise utilise ses éléments naturels humains et on applique le principe de préservation du capital, à savoir, que c'est en capacité d'avoir les ressources à tout moment pour les rembourser. Et pour cela, on se base sur le respect, par exemple, des limites planétaires et sociales, à savoir que quand une entreprise mobilise, par exemple, le climat en émettant des gaz à effet de serre, elle doit pouvoir, derrière, rendre compte qu'elle respecte un budget carbone. Et c'est comme cela, derrière, la capacité à respecter son budget carbone, par exemple, qui permet de matérialiser un capital naturel en comptabilité écologique. Donc, ceci étant dit, c'est une introduction extrêmement vulgarisée, néanmoins, ce travail découle de travaux de recherche hébergés par Dauphine au départ, donc sous l'impulsion de Jacques Richard, qui sont aujourd'hui repris par Alexandre Rambaud, qui est intervenu hier justement en plénière sur les questions de futur à la normalisation et réglementation, portée au sein de la chaire de comptabilité écologique. Hervé Bégaud, expert comptable, commissaire aux comptes, élu à l'ordre des experts comptables, porte le sujet depuis 2011, également pour rendre opérationnel au sein des organisations cette comptabilité-là. Et aujourd'hui, dernier né en date, vous avez Céline dans la salle qui représente le SARCES, donc une association qui permet de regrouper l'ensemble des acteurs intéressés par la comptabilité écologique et qui souhaitent derrière s'engager ou se former également. Donc voilà, donc là on a une première session qui était terminée récemment. Je vois dans la salle des gens qui ont participé à la session, donc n'hésitez pas à rejoindre. Je ne fais pas la pub pour moi, je forme mes concurrents. L'idée étant justement de pouvoir lancer une dynamique beaucoup plus large. Voilà pour un mot introductif. Et du coup, je vais passer la main à Stéphane Le Dentu pour présenter le groupe SLB. Et du coup, en premier temps, qui est SLB et d'où ils viennent. Et après, Stéphane nous partagera pourquoi est venu nous voir pour parler de comptabilité.
En tout cas, bonjour. Donc je me présente, c'est le CEO du groupe SLB. Donc moi, je fais de l'économie depuis plus de 20 ans maintenant. L'écologie, c'est l'économie, donc vous avez compris, c'est l'économie et l'écologie, parce qu'on est persuadé qu'on emmènera les gens vers l'écologie, que s'il y a une économie, autrement, malheureusement, ça s'arrête. Donc on est présent au Brésil et en Roumanie. Au Brésil, nous faisons des forêts dites d'afforestation, c'est-à-dire qu'on achète des terres abîmées par l'agriculture intensive, et on fait de la forêt positive, donc aussi bien pour répondre aux besoins quotidiens de la population et préserver tout ce qui est écosystémique et également la biodiversité et le biotope dans nos forêts dites natives. Parce que seulement 60% de la surface est plantée en forêt positive et 40% en forêt dite positive. En Roumanie, on achète des forêts déjà existantes et celles-ci, on les travaille en régénération naturelle. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais de coupe rase, on maintient toujours le couvert forestier, également toute la matière organique qui se trouve au sol. Et là, ça nous permet d'avoir un modèle économique viable par capitalisation et non pas par dividende, parce que si on veut chercher la dividende importante, malheureusement, on est obligé de décapitaliser nos actifs forestiers. Donc, nous sommes propriétaires forestiers, nous emmenons des investisseurs à nos côtés, que ce soit des privés ou des fonds d'investissement. Également, on travaille sur la séquestration carbone, on travaille sur un standard international qui est sur GHG Protocol, en tout cas, c'est la méthodologie que nous avons retenue. Et évidemment, on fait des produits certifiés et validés par FFC sous le contrôle de tous nos partenaires qui sont en place au Brésil. Pour ça, évidemment, il nous faut des experts. C'est important. Donc, au niveau RSE environnement, on le fait depuis maintenant, on le demande à toutes les entreprises. Nous l'avons mis en place depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, on a une production de bois de substitution pour des usages durables, parce qu'on trouvait et on trouve ridicule de couper des arbres qui mettent 200 ans à pousser pour en faire ce qu'on appelle des meubles non durables ou des produits qui sont d'aujourd'hui où les gens sont consommateurs. Donc, on préfère garder ces arbres-là debout parce qu'ils ont un autre potentiel. C'est l'implantation des terres dégradées par l'agriculture intensive. C'est, faut savoir que quand on arrive, il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vivant du sol. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien qui chante, entre guillemets. Et en même temps, on essaye de trouver la meilleure santé de nos sols. Donc, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Genesis. Genesis est une société qui est en mesure de nous accompagner sur l'état des sols, la continuité des sols, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos sols. Et tout ça, ils ont une base de données extrêmement importante. Aujourd'hui, en Europe, je crois que c'est la seule société qui est capable de faire une ADN des sols et un suivi des sols. Pour aller au-delà de tout ça, on travaille, ça c'est sur la partie environnementale, le vivant du sous-sol. Parce qu'on parle toujours de tout ce qui est hors-sol, mais le sous-sol, on n'en parle jamais. Et celui-ci, il est capital. Il est capital aussi bien sur le vivant à l'intérieur, mais également sur l'hydrique. Notre obsession pour nous, c'est l'hydrique. C'est de reconstituer le capital hydrique de nos forêts. Au-delà de la nappe phréatique dans un premier temps. Donc, quand on a mis ça en place, parce que si on est en mesure de pouvoir garder cette humidité dans notre matière organique, évidemment, on peut décomposer celle-ci en sels minéraux et en oligo-éléments. Autrement, elle part en poussière. Donc, on a évidemment mis en place, on travaille, vous avez déjà entendu parler de ce mot, nous avons fait notre biochar, qui est un produit issu de nos forêts et qui permet d'avoir une rétention en eau jusqu'à 4 fois son volume, donc ce qui est énorme, ce qui permet de maintenir le sous-sol, toujours dans l'humidité. Également, nous avons la séquestration carbone, nous travaillons, vous connaissez sûrement tous maintenant, c'est South Pole. Donc South Pole, on est en phase finale pour nos forêts dites positives, pour qu'elles soient reconnues sur la vente des crédits carbone, parce que nous sommes dans un projet de séquestration, nous ne sommes pas dans un projet d'évitement, ou dans un projet de réduction, nous sommes vraiment dans la séquestration du carbone dans l'air. Et nous sommes évidemment au Brésil, nous avons le Climat Paraná, qui est une organisation précise qui permet de notifier les entreprises si elles ont plutôt un engagement vertueux ou un commencement d'engagement, parce qu'au Brésil, l'avantage, c'est qu'on accompagne les entreprises à devenir vertueuses. Et puis, pour faire tout ça, on a forcément un cabinet Béchon, qui est là pour vérifier la productivité de nos forêts et celle-ci au fil du temps, parce qu'il y a une expertise, une NAV qu'on appelle, qui nous permet de valoriser l'ensemble de tous nos actifs. Mais avec Genesis, il y a un élément important, c'est l'humain. Nous, tout ça, on a pu le réaliser grâce à l'humain. Donc on s'est fait auditer par un organisme qui s'appelle Kinomé. Kinomé, eux, sont là pour nous juger, mais en même temps nous accompagner sur le capital humain et comment on peut s'organiser pour apporter une amélioration sans cesse auprès, aussi bien auprès de mes collaborateurs que de nos prestataires, mais également du voisinage. Donc tout ça, ce sont des contrôles qui sont effectués physiquement sur place, que ce soit au Brésil ou en Roumanie. Genesis fait la même chose. Sur l'ensemble de toutes nos parcelles, nous prélevons plusieurs points géolocalisés qui nous permettent de définir précisément quel est et comment se comporte ce sol. Et je vous explique tout ça, parce que tout ça, c'était des charges avant pour le groupe SLB. Donc, on n'attendait rien en retour. Et quand j'ai rencontré Kerr, Hervé Bégeau à la base, là, on a commencé à comptabiliser tous nos efforts environnementaux humain et également décarbonisation. Donc là, on va pouvoir vous faire une belle présentation sur ce qu'on a mis en place avec la comptabilité CARE. Évidemment, c'est une comptabilité environnementale, comme on l'a expliqué, humaine et financière. Si celle-ci n'a pas été validée par des experts en dehors de votre propre approche et votre propre ambition, évidemment, c'est très difficile de faire cette comptabilité. Donc, vous êtes obligé quasiment de vous entourer d'experts, en tout cas, qui valident bien que vous opérez dans une bonne action.
Donc là, on va continuer. D'accord. Donc, du coup, Stéphane, vous êtes venu nous voir, finalement, pour pouvoir valider ce que vous faites déjà sur le terrain, à savoir les actions en fait, de mesures, de suivi, et potentiellement de préservation déjà des éléments naturels et humains. Et il vous manquait en fait la brique pour parler avec vos partenaires économiques et financiers, si je comprends bien, pour montrer qu'en fait, votre modèle économique a des coûts, mais que ces coûts sont ont un sens. C'est bien ça ?
Complètement. C'est-à-dire aujourd'hui, tous les frais qui sont dépensés, évidemment, on les retrouvait à la fin de notre process. Grâce à la comptabilité CARE, on est en mesure maintenant de pouvoir le mesurer chaque année. Chaque année, on peut donner une valorisation de notre entreprise par rapport à notre engagement environnemental et humain, ainsi qu'évidemment la finance, il ne faut pas l'oublier, est nécessaire à faire tourner l'entreprise.
Effectivement, l'intérêt de la comptabilité CARE, c'est effectivement d'avoir la préservation de tous les capitaux, naturels, humains et bien sûr financiers, qui est à la base, sinon il n'y a pas de sens d'avoir une entreprise. Voilà. Alors du coup, comment nous avons procédé ? Donc là, je vais vous brosser dans les grandes lignes l'approche méthodologique. Donc pour ceux qui sont déjà un peu, on va dire, au fait du sujet, donc il y a 8 étapes au sens méthodologique au niveau de la chaire. Bon, là, par souci de pédagogie, on va avoir 4 grands temps. Un premier temps qui est la phase d'analyse du modèle d'affaires. En quelque sorte, pour ceux qui ont vu arriver la réglementation européenne sur le reporting extra-financier, là c'est SRD, eh bien c'est l'analyse de double matérialité, en fait, côté matérialité d'impact. Ça permet de voir où sont les capitaux naturels et humains dans l'entreprise, à quel endroit on va impacter la nature et les humains. Typiquement, quand Stéphane parle des sols, c'est qu'il y a un vrai enjeu à garantir que les sols restent en bon état de santé, pouvoir faire pousser les arbres, par exemple, qui est derrière son capital financier à terme. Une fois qu'on a pu identifier où sont les enjeux capitaux de l'entreprise, donc les capitaux, c'est là où on a un impact direct, on peut avoir aussi l'identification des enjeux en chaîne de valeur. Mais là, on va nous se concentrer vraiment sur d'abord les capitaux de SLB. On peut travailler sur la chaîne de valeur, c'est pas un problème. Une fois qu'on a identifié nos capitaux, la deuxième étape, c'est de se dire, ok, maintenant que je sais sur quoi ce que je vais ajouter dans ma comptabilité, ben, quels sont les éléments dont j'ai besoin pour garantir que l'entreprise va respecter le bon état écologique, les limites planétaires en quelque sorte, des différents capitaux de l'entreprise. Et donc, il faut aller chercher les bons indicateurs pour le faire, les objectifs de préservation, qui sont basés sur des observations de terrain scientifiques et ou politiques. Une fois qu'on a ces éléments-là, on peut construire la comptabilité dite biophysique, et autrement, pour l'entreprise, on va avoir un tableau de bord de pilotage, d'indicateurs, hiérarchisés, structurés, dans lequel on va vraiment garder le nerf de la guerre, l'essentiel, les éléments qui permettent de vraiment piloter la stratégie de l'entreprise, parce qu'on contextualise ce que l'on fait. Quand je dis on contextualise, c'est je ne fais pas que suivre mon flux d'émissions de CO2, je suis mes émissions de CO2 par rapport au respect de mon budget carbone. Ça veut dire ça, contextualiser. Derrière, une fois qu'on a posé ça, eh bien, ce qui se passe, les entreprises, en général, font déjà des choses. Là, c'était le cas de Stéphane avec SLB. Ils font déjà beaucoup de choses pour préserver leurs capitaux naturels et humains. Et donc, on cherche déjà à faire un audit de l'existant, quelles sont les actions existantes dans l'entreprise. Et donc, à partir de là, on va pouvoir ensuite avoir un dialogue entre les équipes de terrain, au Brésil, en Roumanie, en France, avec les équipes comptables, qui, elles, sont en connaissance des coûts. Donc là, on fait le travail de désilotage au sein des entreprises. Donc, c'est des projets qui entraînent, en fait, toutes les équipes de l'entreprise, des RH aux comptables, aux équipes environnement, la direction qui est importante pour le sponsor et donner la dynamique, pour pouvoir, justement, produire l'information. Ensuite, dans la partie numéro 2, mesure de son niveau de durabilité, si jamais on a observé un écart entre le résultat et l'objectif de préservation, eh bien, ça veut dire qu'on a besoin d'un plan d'action complémentaire. Donc là, encore une fois, quand on regarde ce que fait la réglementation européenne au niveau de la CSRD, elle demande de rendre compte de comment vous allez agir pour pouvoir, entre guillemets, garantir l'atteinte d'un objectif environnemental. Mais là, c'est pareil. On a dit typiquement pour le climat, vous avez un budget carbone à respecter tous les ans. Eh bien, c'est quoi le plan d'action qui vous permet de respecter ce budget carbone, pardon. c'est quoi le plan d'action pour garantir qu'on préserve, qu'on restaure les sols dans le cas de SLB. Et enfin, quand on a tous ces éléments-là, on va avoir une nomenclature claire, donc je vous ai parlé pour l'instant des noms scientifiques barbares, qui permet derrière de reconstituer un bilan et un compte de résultats, qui va mettre en avant justement où sont passées les dépenses invisibilisées dans la comptabilité classique, pour mettre en avant eh bien, qu'est-ce que l'on fait déjà de bien et quels sont les besoins complémentaires qu'on devrait prendre pour atteindre la durabilité. On va également regarder quelle est la part de chiffre d'affaires qui est dite classique, la part de chiffre d'affaires qu'on peut appeler habilitante au sens de la taxonomie verte européenne. Ou alors, entre guillemets, quel est notre chiffre d'affaires qui permet à nos clients de préserver et restaurer ses capitaux, naturels ou humains. Et donc là, on est vraiment dans la comptabilité économique. Et derrière, on peut imaginer tous les outils de contrôle de gestion, de planification avec un prévisionnel, bilan, compte de résultat prévisionnel, pour justement permettre aux dirigeants de piloter l'atterrissage de son activité dans une optique de transformation, de transition ou de redirection écologique. Donc, au niveau de SLB, une fois qu'on a posé l'analyse du modèle d'affaires, on a identifié 6 grands capitaux, donc du système climatique, les humains par rapport aux collaborateurs, la biodiversité, le cycle de l'eau, les sols et la forêt. Donc là, vous avez des petits drapeaux qui montrent à quel endroit sont les capitaux d'un modèle d'affaires. Et typiquement, pour l'illustration, je prends le climat parce que c'est le plus simple, entre guillemets, pour illustrer. Et capital d'enquête, vraiment, quand on a une reconnaissance d'un emploi. Donc l'emploi, sens comptable, c'est comment on utilise le capital, comment on l'impacte. Donc l'entreprise émet des gaz à effet de serre. Bon, bah là, aujourd'hui, tout le monde émet des gaz à effet de serre pour fonctionner. Ce n'est pas un sujet. On a un souci de préservation. Et là, le souci de préservation, c'est typiquement, on a un accord de Paris, COP21, qui dit on a un budget carbone à respecter. Donc derrière, ça va être la déclinaison à l'échelle de l'entreprise. Et après, il faut pouvoir avoir un plan d'action, pouvoir agir pour tenir l'objectif. Voilà. Et à ce moment-là, on a un capital d'enquête. Donc, pour illustrer, quand on rentre dans la partie mesure de l'impact, de mesure des résultats de l'activité, donc je vous ai pris 2 cas pour illustrer cela, on va du coup avoir à la recherche ce qu'on appelle un traducteur d'état. En gros, il faut voir dans les batteries d'indicateurs, une hiérarchisation d'indicateurs. Le traducteur d'état, c'est le plus haut niveau dans la hiérarchie. C'est ce qu'aujourd'hui, tout le monde oublie dans ses indicateurs RSE. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me permet de garantir que je vais respecter mes limites planétaires? C'est vraiment ça. Et donc, mon traducteur d'état pour la forêt, en l'occurrence, on va avoir des agents forestiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agent forestier, c'est la personne qui a les connaissances, les compétences pour évaluer par l'observation, donc la laitière forestière, un suivi de batterie d'indicateurs sur la biodiversité, le bois mort, par exemple, etc. Tous ces critères-là pour rendre compte est-ce que ma forêt est en bonne santé ou pas. Donc voilà, donc là, mon traducteur d'état pour la forêt, c'est pas un indicateur technique, c'est des êtres humains qui font de l'observation avec à l'aide d'outils également, bien entendu. Donc là, dans le cas de SLB, sur la partie écosystème forestier qui sont en Roumanie, eh bien, globalement, ce qui ressort des études, c'est qu'ils sont tous en bon état de santé. Derrière, pour prendre le contre-pied, on va avoir le climat. Là, pour le coup, on va avoir un indicateur ultra-technique, la tonne équivalent CO2, rapproché à un budget carbone aligné sur une trajectoire en degré 5. Donc là, et derrière, après, eh bien, on en a la mesure. Donc SLB a réalisé ses bilans carbone sur l'ensemble de son scope. Vous l'avez vu, ils ont vraiment toutes les ceintures 3e Dan en termes de mesure d'impact sur leur périmètre. Voilà, et derrière, la question de l'écart à ce stade, ben, on n'a pas eu d'écart mesuré. Et donc là, ça n'apparaît pas sur la slide, mais la proposition de plan d'action qu'ils ont formulée jusqu'à présent, s'il est appliqué, permet de tenir l'objectif sur les 3 années à venir. Donc voilà, donc là, en fait, c'est tout ça pour vous dire qu'on va vraiment aller chercher les éléments d'indicateurs et d'éléments de mesure de la durabilité de l'entreprise adaptés au contexte et adaptés à chacun des capitaux. Et ça, c'est un travail qui est fondamental à faire. Sans ça, on ne peut pas contextualiser où en est l'entreprise. Une fois qu'on a ça, je vous l'ai expliqué dans la méthodologie, on va aller chercher quelles sont les actions existantes. Et déjà, pour comprendre ce qui est fait, donc là, on veut voir sur différents capitaux. On va avoir donc, nos 6 capitaux naturels et humains. Je vous ai mis le nombre d'actions pour illustrer. Et après, la nature de la dépense. Donc là, on a principalement des coûts d'exploitation, de l'OPEX. Donc là, encore une fois, ça va renvoyer vers la nomenclature, ce qui est demandé en taxonomie verte européenne, de rendre compte des CAPEX et OPEX permettant, qui sont en phase avec la taxonomie, donc entre guillemets déjà vert. Donc là, c'est la même logique finalement, en un sens. Une fois qu'on a ça, la question, bah, je l'ai expliqué, c'est comment on fait le lien avec les équipes finances pour mettre en chiffre un coût à cela. Donc là, vous avez un tableau un peu différent avec des acronymes, ça les techniques de CAR qui apparaissent. Donc là, je vais vous renvoyer pour vraiment rentrer dans le sujet sur le site du CRCS où il y a déjà énormément de littérature là-dessus. Parce que c'est trop long là, mais prendre un exemple, prenons l'action d'Axio Capital. Ça veut dire que là, dans cette étiquette-là, en 2022, SLB a dépensé à peu près 200 000 euros. Et ça sert à quoi? Ça sert à mesurer pour comprendre ses capitaux. Typiquement, quand SLB fait son bilan gaz à effet de serre, c'est une dépense d'Axio Capital. C'est une dépense qui permet de comprendre, en fait, comment je... Enfin, quel est mon capital, quelle est sa nature, quelle est sa définition, comprendre où sont les impacts, pour pouvoir d'ailleurs agir. C'est vraiment un élément fondamental. Après, si je prends un autre exemple, vous avez les dépenses, les actions de préservation. Donc là, on est vraiment dans... Quand, par exemple, M. Dentu dit qu'on utilise du biochar pour tenir l'aspect capital hydrique du sol, eh bien, c'est vraiment un élément de préservation, en prévention, en fait, dans le sens où on fait en sorte de garder l'eau dans les sols, le bon état des sols. Voilà. C'est ce type de choses qu'on va retrouver, après qu'on va labelliser, qui vont permettre derrière une intégration en comptabilité dans différents compartiments par la suite. Et pour justement filer la présentation, on va vous présenter un bilan en compte de résultats qui ne présenteront pas les résultats comptables de SLB par souci de confidentialité. Mais par contre, pour répondre potentiellement à l'appétit des comptables et pour avoir un peu de logique comptable, on peut vous prendre deux exemples. On va se focaliser sur des exemples sur la forêt en Roumanie. On va avoir par exemple une action liée à l'observation de l'évolution de la forêt. Donc là, en gros, c'est le rôle des agents forestiers pour se prononcer sur l'état sanitaire de la forêt. Donc là, c'est une dépense d'accès au capital. C'est le traducteur d'État qui joue son rôle. Les coûts associés sont de 71 000 euros. La deuxième action, c'est un suivi des pratiques pour prévenir le tassement des sols. Il faut voir qu'en Roumanie, aujourd'hui, on fait des coupes sélectives dans les espaces forestiers avec des petits tracteurs ou du débardage à cheval. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir l'agent forestier qui va suivre les équipes lors des coupes pour garantir qu'ils restent bien sur les voies de cloisonnement, qui ne vont pas écraser les semis, qui ne vont pas tester les sols parce qu'ils interviennent par temps de pluie, etc. Donc c'est ce suivi-là. Donc là, on a des dépenses pour 39 000 euros, par exemple. Et là, on va rentrer dans l'aspect, désolé pour les non-comptables, cet abscon. Pour les comptables, ça va être plus intéressant. Donc voilà, donc là, on a un compte de résultats, ça veut dire ramasser CARE, où en gros, ce qu'il faut voir, c'est que la partie, je crois qu'il y a un laser, yes, la partie exploitation ici, donc c'est la partie classique d'un compte de résultats, dedans, vous avez des rubriques ajoutées qui s'appellent charges aux capitaux humains et charges aux capitaux naturels. Et bien là-dedans, on va retrouver l'ensemble des dépenses d'exploitation de l'entreprise réalisées, mais également qui auraient dû être réalisées à la fin de l'année. Dit autrement, c'est l'écart mesuré entre l'objectif de préservation et ce qui a été fait. Par exemple, si on se dit que l'aspect de la prévention du tassement des sols n'était pas suffisant parce qu'on n'a pas couvert tous les espaces forestiers, eh bien, on aurait potentiellement eu un besoin d'une dépense supplémentaire. Donc là, en l'occurrence, on part du principe que ça a suffi, que les 39 000 euros suffisent, et c'est le cas en l'occurrence, suffisent à suivre les choses. Dessous, vous avez la partie activité de préservation de capitaux. Et bien là, ça vient vraiment extraire, mettre en lumière que dans les dépenses, donc les charges capitaux humains, charges capitaux naturels, elles ont vraiment servi à la préservation. Voilà. C'est-à-dire que si on a un écart entre la valeur ici et la valeur là, c'est ce qui aurait dû être fait en plus, qui n'a pas été fait, qu'on retrouvera au passif du bilan sous forme de dette. Côté produit, c'est un pur jeu d'écriture pour montrer en fait qu'on a réparé le capital en question. Donc là, c'est un pur jeu d'écriture comptable. Voilà. Et ensuite, on a notre action d'Axio Capital, les 71 000 euros qui est liée à l'activité des agents forestiers, eh bien, on est dans la rubrique Axio Capitaux. Donc là, voilà. Ça veut dire que aujourd'hui, sans CARE, ces 71 000 euros-là sont noyés là-dedans. Et là, on met en exergue que si on veut vraiment bien faire les choses dans la civiculture, eh bien, on a des dépenses qui sont indispensables. Et donc là, on fait ressortir ces dépenses indispensables de pilotage et les dépenses indispensables de préservation. Et enfin, Stéphane a parlé de la partie justement séquestration carbone. Et effectivement, dans le marché du carbone volontaire, seulement 10% des crédits carbone sont sur la séquestration, donc c'est extrêmement petit, avec toutes les limites qu'on peut avoir par ailleurs en termes de garantie de durée. En tout cas, ici, dans le niveau des ventes, c'est là où on peut distinguer les ventes pour classique des ventes pour permettre la préservation des capitaux des clients. Donc typiquement, si on a demain un crédit carbone de séquestration qui est garanti avec un suivi de la garantie dans le temps, eh bien on va pouvoir distinguer cela dans la partie vente pour aider à la préservation. Voilà. Voilà un peu la lecture d'un compte de résultats. Si on passe au bilan, donc je suis désolé, le bilan est vide, mais c'est juste pour la logique, je vais expliquer la logique comptable, après vraiment, il y aura toujours la formation au niveau du CERCES qui est possible, on pourra en discuter par la suite, ou aller voir sur le site. En tout cas, vous avez la rubrique enjeux financiers, donc la partie classique d'un bilan comptable, la partie enjeux humains, enjeux naturels, qui là, en fait, vont venir faire apparaître les capitaux dans la comptabilité. À l'actif, c'est l'emploi. C'est l'explication de comment j'emploie mon capital. Par exemple, une entreprise émet des gaz à effet de serre. L'emploi, c'est j'entrepose des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Eh bien, si par exemple, je ne respecte pas mon budget carbone et j'émets 10 tonnes de trop, j'ai une dette de 10 tonnes, traduite en combien ça me coûte de trouver un puits de carbone additionnel, robuste dans le temps. Et donc la valeur du capital atmosphère, c'est le coût de réparation, préservation de mon capital que je vais devoir acquitter. Si par exemple, pour l'exemple d'une forêt en Roumanie, c'est vraiment purement pour l'exemple, on constate qu'il y a une problématique de scolite, eh bien le coût à prévoir sera le coût d'intervention pour régler le problème du scolite. Voilà. C'est-à-dire que du coup, on aura un actif qui expliquera un dépérissement de la forêt lié à un parasite, par exemple, et au passif, vous aurez du coup le montant nécessaire à engager pour traiter la problématique et derrière régénérer la forêt. Et enfin, la partie active pour préservation et passive pour préservation, c'est si jamais vous avez des immobilisations ou des éléments engagés, déjà engagés, par exemple, vous avez un station de traitement d'eau polluée immobilisée, là, vous aurez directement à l'actif de préservation votre amortissement qui court dans le temps. Donc voilà un peu la chose. Et tout ça permet du coup d'avoir une relecture de la performance complète de l'entreprise. Et là, je reviens au cas de SLB à la conclusion directe. Donc, vous n'avez pas eu la vision des comptes parce que confidentialité, mais néanmoins, le résultat est celui-là. C'est que à la gauche, vous avez un tableau qui fait la synthèse de la comptabilité biophysique, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à respecter les limites planétaires pour ses capitaux, à les préserver dans le temps. Donc là, en l'occurrence, Stéphane a parlé de Genesis. Effectivement, le partenariat Genesis va rendre compte des mesures d'état du sol à la fin de l'année, c'est ça ? 2020.
Ouais, au fur et à mesure.
Voilà. Donc là, typiquement, dans le cadre de la mission, on n'a pas encore eu les résultats d'études de sol la dernière campagne. Et donc, intuitivement, parce que les équipes font le travail d'observation, on s'attend à une amélioration de l'état des sols. Maintenant, les résultats de Genesis viendront le confirmer. Si c'est le cas, il n'y a pas forcément nécessaire de plan d'action complémentaire. Par contre, si l'équipe de Genesis dit, en fait, à tel endroit, il y aurait besoin de faire tel type de pratique pour ramener de la vie dans le sol, par exemple, eh bien là, on aura une action complémentaire à prendre en compte qui fera apparaître dans le passif du bilan comptable les besoins de réparation complémentaire. En attendant, la conséquence est qu'aujourd'hui, SLB gère bien tous ses capitaux naturels et humains, et donc la solvabilité et la rentabilité de l'entreprise, en prenant en compte tous ces impacts, reste préservée. Voilà un peu la lecture qu'on peut en avoir à la fin. Et ça permet d'avoir vraiment un outil de pilotage pour la direction, pour se rendre compte d'où on en est dans notre transition, besoin de transition ou pas, et nos choix stratégiques à faire. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire, Stéphane, j'ai une question pour toi, c'est, on t'a livré ça, des fois c'était parfois dans la douleur, mais avec énergie, et donc, quelle perspective ensuite ? Qu'est-ce que tu en retires ?
Alors nous, pour ce qui est très intéressant avec la comptabilité CARE, mais également avec notre comptable, parce qu'on a gardé notre cabinet comptable pour comprendre et ajuster les éléments financiers avec le naturel et l'humain. Donc ils ont travaillé en collaboration avec toi, Mathias. C'est ce qui nous a permis de vraiment mettre en avant toutes nos dépenses, parce que l'enjeu écologique, on le mesure toujours en charge, on ne le mesure pas comme un profit ou comme une valeur ajoutée à notre entreprise. Et là, ça nous a donné une vraie visibilité pour nos banquiers. Donc, parce que comme vous le savez, peut-être les banques le demandent, quel est votre impact environnemental ? Quel est votre impact au niveau des émissions de CO2, au niveau du RSE, et tout ça, le matérialiser en comptabilité, c'est extrêmement compliqué. Là, on a pu le réaliser. Donc moi, aujourd'hui, je donne une meilleure visibilité de mon groupe, c'est clair. Grâce à ça, j'ai un accompagnement par les partenaires bancaires et financiers qui sont beaucoup plus facilités, c'est clair. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a amélioré la valorisation de l'entreprise parce qu'on a pris en compte une valeur que nous, on connaît personnellement, mais qu'on n'arrivait pas à matérialiser. Maintenant, elle est matérialisée. Et donc, ce qui permet d'améliorer nettement l'EBITDA à la revente si demain, je souhaitais revendre mon groupe. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on est en mesure, avec un plan de progrès, forcément, parce qu'on n'a pas tout le détail. Hein. Le détail, c'est à peu près 40 slides, hein, on va dire.
Oui, oui. On m'a demandé 15 slides à la commande.
Ouais.
J'ai fait au plus synthétique, effectivement, 40 slides. Mais à un moment donné, quand on fait toutes ces choses-là, c'est compliqué de faire rentrer le muscle dans passe-passe, quoi.
En tout cas, aujourd'hui, nous, ça nous donne une vraie visibilité pour l'ensemble de mes collaborateurs, l'ensemble de tous mes partenaires financiers, mes investisseurs qui sont à nos côtés. On peut, à tout moment, transmettre un bilan positif ou négatif. En général, il est positif. S'il est négatif, bah, évidemment, on va le corriger pour rassurer l'ensemble de tous nos investisseurs.
Merci, Stéphane. Et du coup, pour aller plus loin, au-delà de l'exemple de Stéphane, c'est-à-dire que par rapport à ce que je vous ai présenté là, il y a plusieurs autres éléments qui peuvent être intéressants, qu'on a pu comprendre que grosso modo, dans l'histoire de CAIRC, il y a plus de 10 ans, on était en avance sur la réglementation européenne aujourd'hui. Typiquement, l'aspect analyse de matérialité, double matérialité, c'était comment on identifie mes capitaux naturels humains dans CAIRC, donc la première brique. Ensuite, il y a la question de structurer, hiérarchiser et choisir ces indicateurs. Là, c'est pareil, c'est important. Ça permet aussi, d'ailleurs, des fois, de dimensionner les projets. Parfois, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, dont des choses qui ne servent à rien, en fait. Donc, on peut avoir des choix stratégiques de dire, ben, peut-être que l'effort à mettre en œuvre dans l'entreprise, il n'est pas sur aider à la fondation de quartier, mais c'est peut-être décarboner ma flotte de véhicules. Bon, je prends un exemple caricatural, mais c'est un peu ça, quand même, des fois. Ensuite, on va avoir, du coup, la question de faire ressortir la part durable du modèle d'affaires. Donc là, c'est toute la partie coût invisibilisé et potentiellement chiffre d'affaires, eh bien, habilitant dans les langages de la taxonomie européenne ou alors du chiffre d'affaires qui permet une préservation des capitaux des clients. Et enfin, donc ça c'est vraiment la partie, on va dire, qui est où la réglementation européenne arrive au niveau du travail qu'on fait depuis le début. Et après, ben, l'aspect jusqu'au bilan compte de résultat et l'aspect justement s'appuyer sur les outils de comptabilité permet derrière, pour un dirigeant comme vos équipes financières, de produire tout le contrôle de gestion que l'on veut, de produire tous les prévisionnels que l'on veut, et de faire des simulations. Si demain, Stéphane revient me voir en me disant, bah voilà, Mathieu, j'ai un projet pour, je sais pas, moi, en Roumanie, admettons, on a un problème avec le changement climatique, et on veut simuler des stratégies d'action pour continuer à préserver les forêts, eh bien, on peut faire des simulations de plans d'action, des coûts associés, qu'on injecte dans la machine, et on voit comment le modèle d'affaires réagit. Est-ce que ça passe, ça passe pas? Je peux vous retourner voir mes partenaires financiers en me disant, ben voilà, en fait, mon modèle d'affaires, il peut fonctionner demain encore. Par contre, j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin d'aide. Et voilà la chose. Voilà ce que je voulais vous dire principalement. Et je crois qu'on a fini sur la partie présentation. Il nous reste un quart d'heure pour les questions-réponses.
Merci beaucoup. Donc Sylvie Calais, des anges et des hommes. J'ai plein de questions parce que forcément, ça fait longtemps que j'ai identifié le système de compta écologique comme étant la réponse vraiment aux enjeux de la transition, parce que ce qui permet d'objectiver les bons acteurs de ceux qui sont un peu moins vertueux. Donc plein de questions forcément. La première, c'est est-ce que vous avez senti une appétence justement de la communauté financière pour que les entreprises évoluent vers ce système de comptabilité. La deuxième, qui est pour Hendrix plutôt, c'est... vous avez choisi CAIRC, il y en a d'autres, hein, il y a Lyft, il y a celui de Goodwill Management, il y a Saint-Front, il y a en Angleterre, il y a Harvard. Donc qu'est-ce qui vous a amené à choisir CAIRC plutôt qu'un autre? Et puis j'en avais une troisième, mais ça va être déjà pas mal.
Donc... Évidemment, nous, aujourd'hui, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, nos banques demandent sans cesse quel est notre parcours d'amélioration vis-à-vis du climat. Donc, celle-ci nous a, dans cette comptabilité, nous, on était, évidemment, on avait plein de documents en interne pour prouver qu'on faisait les choses bien, mais sincèrement, avec la comptabilité CAIRC, ça a permis, de, comme je le précisais tout à l'heure, de les matérialiser et de les faire voir. Et là, évidemment, si on est même précurseur, parce que c'est encore des dépenses, hein, c'est toujours pareil, mais est-ce qu'on alloue une dépense à un succès ou à une valorisation d'entreprise, ou alors est-ce qu'on considère toujours que ce sont des charges? Donc évidemment, cette comptabilité-là, intellectuellement, il faut s'y préparer. Ce sont des coûts, c'est clair. mais qui donne une sacrée visibilité de votre entreprise et une amélioration, en tout cas de sa valorisation, d'une façon extrêmement importante. Évidemment, pour des choses très confidentielles, je ne vous ai pas donné les chiffres exacts du groupe SLB, mais juste pour vous donner une valorisation opérationnelle avec la comptabilité CARE, eh ben, on améliore quasiment 60% le résultat, donc ce qui est énorme. Parce que tous les frais engagés du groupe SLB dans les différentes actions ont été repris, soit en équivalence, soit en goodwill. Et c'est ça le plus important. Voilà, en tout cas. Parce que ça, c'est bien, ça vous convient ?
Merci Stéphane. Alors pour répondre à la question sur CARE, LIFT, Goodwill ou d'autres, je vais prendre ma casquette anciennement d'étudiant en reprise d'études en RSE en 2017. J'ai fait le master à l'IE Paris Créteil orienté recherche, où j'ai eu la chance d'avoir des directrices de master, comptables et contrôleuses de gestion, en recherche également. Donc du coup, on a eu le droit à l'analyse comparée des différents modèles. Et moi derrière, en reprenant ces études-là en RSE, c'était vraiment pour me dire à quel endroit on peut avoir le plus d'impact. Historiquement, je suis contrôleur de gestion. J'ai une sensibilité sur la question environnementale et je voulais changer de casquette, le sens des casquettes. Et donc, à l'époque, le modèle de Goodwill était vraiment orienté sur comment on valorise la performance, l'immatériel, merci. Et en fait, ce n'est pas le sujet, à la base. Donc Goodwill s'est mis à suivre les travaux par rapport à CARE pour justement se dire on a besoin d'intégrer aussi la question de la préservation. Ils le font à leur sauce, mais en suivant l'avancée sur CARE. LIFT, à l'époque, n'existait pas. Et en fait, notamment parce que les personnes qui aujourd'hui portent LIFT étaient doctorantes à l'époque avec Jacques Richard et Alexandre Rambaud, qui, du coup, portent CARE. Donc voilà, en fait. Donc la filiation entre l'écart entre LIFT et CARE est assez poreuse, sauf que pour l'instant, LIFT n'a pas encore montré de comment ils vont dans la partie économique. Ils restent cantonnés sur la partie biophysique en disant qu'il faut éviter... Là, c'est ma dernière connaissance. Après, peut-être qu'il y a une mise à jour, mais éviter d'aller sur le côté monétaire. Donc, c'est leur choix. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que, du coup, RBGO, en fait, ayant connu à Dauphine Jacques Richard, qui a développé CARE, et qui, lui, en tant qu'expert comptable, a compris le modèle et la logique, s'est dit c'est super, je crée ma boîte pour porter ça. Donc, voilà.
Merci beaucoup. En tantôt, j'ai retrouvé ma troisième question. C'est vrai que les chiffres que vous avez généreusement partagés étaient essentiellement focalisés sur la filière agroforesterie. Vous n'avez pas trop détaillé la dimension qui est aussi hyper complexe à valoriser, qui est la dimension sociale, justement, comme on évalue la prédation ou la régénération du capital social. Donc, est-ce que vous avez exploré ça ? Et puis, pour clôturer le tout, du coup, à quand l'échéance du plan, du bilan global, tout capitaux confondus, pour une entreprise ? Est-ce que le bilan final englobait la performance sur les trois capitaux et donc le résultat net-net ? Et sinon, quand est-ce qu'on peut y imaginer que ça pourrait être monnaie commune, entre guillemets, pour les entreprises ?
D'accord. Sur la première question, oui, on a traité le volet social. J'ai hésité à le mettre dans la présentation pour justement ne pas avoir cette question-là. Le problème, en fait, c'est que ça prend beaucoup de place et je voulais éviter, parce que je ne suis pas bon à faire des slides peu chargés, donc je voulais éviter de charger les slides. Donc, je vous le fais à l'oral, mais en gros, dans le CARE, on aborde l'aspect humain avec la dimension la santé physique et mentale, la dimension employabilité, comment on garantit les compétences des collaborateurs dans le temps, le parcours.
Pardonnez-moi, c'est tout ça. On a un organisme, on travaille avec Kinomé, je ne sais pas si vous connaissez, Nicolas Métro, qui est venu 6 mois sur site au Brésil et 4 mois sur site en Roumanie, vérifier comment étaient considérés nos partenaires, nos prestataires et aussi le voisinage. Par rapport aux engagements, si on était plutôt dans le social ou si on était vraiment dans un accompagnement ludique et de formation également. Donc tout ça, Kinomé, je vous invite vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, à le découvrir. C'est vraiment un organisme très performant, très en avance sur cet engagement social et humain. Et également, parce que j'insiste aussi, c'est parce que tout ça, je ne peux pas le réaliser sans... le concours aussi de Genesis. Genesis, je vous invite vraiment à le contacter également sur la santé des sols, parce qu'il a une réelle expérience, c'est une vraie nouveauté. Et grâce à Genesis également, tout ça, on a pu mettre en avant, en équation, l'humain, parce que plus le sol est bon, plus on demande moins à l'humain. Enfin, vous comprenez, c'est toute une chaîne qui est vertueuse, et celle-ci améliore évidemment notre rentabilité.
Et pour illustrer ça, par rapport à Kinomé, typiquement, une autre dimension dans l'humain, c'est l'aspect salaire décent. Donc là, à ce niveau-là, au Brésil et Roumanie, bah, effectivement, Kinomé était en capacité de produire une évaluation, d'aller chercher l'information sur c'est quoi un niveau de salaire décent au Brésil, au Paraná. En Roumanie, ils n'ont pas été en capacité de le faire, et c'est normal parce qu'en fait, ça n'existe pas. Et même au niveau européen, il y a une commission au niveau européen qui travaille sur c'est quoi un salaire décent dans chaque pays au niveau européen, qui identifie le besoin de le créer pour la Roumanie. Donc là, on a fait un travail de dire, on a pris un salaire moyen au plus haut, parce qu'en Roumanie, en plus, il y a différentes régions avec différents salaires moyens, du coup, voilà, on a pris le mieux disant pour base d'analyse de comparaison. Donc voilà, on a vraiment une analyse complète sur les capitaux humains. Et effectivement, la seule recommandation qu'on peut faire, c'est une question de formalisation de process pour garantir qu'on a suivi dans le temps. Mais voilà, sinon, ouais, on a tout étudié.
Merci. Moi, j'ai une question concernant le déploiement du modèle CARE, plus dans tout ce qui est l'environnement innovation, start-up. Là, il y a beaucoup d'exemples en fait, sur des entreprises qui opèrent déjà, donc il y a déjà des comptes de résultats, des comptes de bilan, où il y a déjà une valorisation. Quand on est en start-up, en fait, la valorisation, c'est zéro. Jusqu'à même les levées de fonds, en vrai, c'est zéro. Ma question, c'est dans quelle mesure le modèle CARE il est déployé dans les incubateurs français ou européens ou parisiens? Parce que là, on arrive. Enfin, ce que je vois, du coup, c'est du correctif. Alors qu'en vrai, on pourrait éventuellement faire du préventif avant même une levée de fonds, parler de valorisation globale. Dans quelle mesure c'est déployé dans les gros incubateurs, Station F, Make Sense, ouais, etc.
Alors, à ce stade, c'est pas déployé, mais on peut en discuter si tu veux.
Avec
grand plaisir. Et effectivement, en fait, il y aurait un vrai intérêt derrière à passer au crible tous les porteurs de projets où ils peuvent utiliser. En fait, derrière CARE, c'est au-delà de la méthode comptable, c'est un cadre de pensée. Donc, du coup, on a vraiment les outils pour dire, finalement, si je veux créer une entreprise qui s'inscrit dans une durabilité, eh bien, je peux tout de suite challenger mon modèle d'affaires à la création, de me dire, en préventif, eh bien, peut-être qu'il faut que je pense ma chose un peu différemment. Pour justement ne pas avoir de problème derrière de correctif à prendre en compte. Ou voir du coup tout de suite avoir des partenaires financiers qui me suivent sur un business model vraiment durable et qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. C'est à penser.
Bonjour, moi j'ai une question sur l'outillage. Là, vous retraitez de la donnée. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'outiller cette méthode pour pouvoir collecter à la base l'information ?
Information confidentielle. Non, mais après, en fait, tout est. Alors, information confidentielle, après, ça dépend des entreprises aussi. Là, typiquement, j'ai des missions d'accompagnement où on est en train d'anticiper le comment je change le système d'information. J'ai un client à Lyon aujourd'hui, industriel, qui a vraiment repensé le modèle d'affaires en mettant ça au centre de la vision stratégique. Donc là, on va toucher le système d'information de l'entreprise. Voilà, c'est ce qui est en réflexion.
Donc c'est indispensable. Je pense que c'est un travail de collaboration avec CARE et nos cabinets comptables. Autrement, il faut tout reprendre à zéro. Et là, c'est un travail énorme.
Ouais. Là, effectivement, il y a un point important en rebond. Il va falloir qu'on s'arrête après ça. Mais il y a un vrai besoin d'embarquer toutes les équipes au début du projet. Et parce qu'il y a un vrai langage commun à avoir, de compréhension. Et après, on mobilise les compétences au besoin au fur et à mesure. Mais il faut quand même, dans la compréhension, avoir embarqué toutes les personnes qui vont être impliquées dans le projet. Et en plus, elles vont devoir travailler ensemble au fur et à mesure. Donc c'est clair que sans le cabinet comptable extérieur, on était morts pour produire la comptabilité. Ça, c'est évident. Je crois qu'on fait une dernière question, il me semble. Je vous laisse...
Merci beaucoup pour la présentation. J'avais juste une question. Quand on voit que le résultat, comme vous l'avez généreusement partagé, était revu à 60% pour une entreprise comme la vôtre, on se doute que pour les grands groupes qui, eux, ne font pas d'efforts là-dessus, ils vont être doublement pénalisés parce que d'un côté, ils n'ont pas d'avantage et en plus de ça, ils ont entre guillemets une décote de leurs résultats et qui, en plus, potentiellement, sera aussi très grande. quand on voit que pour toutes les lois financières vertes, on a d'abord mis des normes très soft et après on est monté petit à petit dans des pourcentages, etc. Est-ce que ce serait une possibilité, vous pensez, d'avoir un modèle CARE qui est au début rendu plus, moins radical, entre guillemets, même si c'est très bien qu'il le soit à la fin, pour justement avoir un coût d'entrée moins important et ensuite avoir plus de gens qui montent comme ça.
Ouais. Alors, ça a été pensé. Donc, il y a la DPI, donc Déclaration de Performance Intégrée, qui était pensée à l'époque avec Auré, entre autres, donc VVF, Auré et d'autres acteurs. Donc là, vous cherchez DPI, Auré, vous trouverez un PDF de 6 pages qui présente, en fait, aussi un élément d'avancée dans cette direction-là. Et après c'est quelle intention on veut y mettre. Effectivement, l'idée, c'est pas... Donc là, le truc qui va jusqu'au bout. Après, il y a comment on fait intelligemment avancer les choses. On ne peut pas ne pas faire de conduite du changement. Je veux dire. Donc voilà. Après, là, niveau politique, je ne suis pas la personne pour répondre à cette question-là aujourd'hui. Ah oui, voilà, pardon. Donc, alors du coup, oui. Ce que j'ai vu passer quand même dans une slide de PwC, c'était horizon 7 à 10 ans. Voilà. Après, c'est une boule de cristal, je ne sais pas, mais c'était leur horizon temporel. Tant qu'on ne me dit pas stop, je prends les questions. D'accord. Dernière question aussi. Comme vous voulez.
C'est une question bête, mais c'était marqué sur un slide. En fait, est-ce que CARE, in fine, c'est pas une méthode d'analyse et de gestion de risque pour s'assurer la viabilité à long terme ? Parce qu'en fait, il y avait marqué, enfin, moi, je voyais vraiment ça comme une méthode.
C'est pas une question bête. Ça peut être pensé comme ça. Après, il faut pas le faire que comme ça, sinon, faut réfléchir à former ça comme il faut. Oui et non, en cours. On en parle après. Merci à vous. Merci.